franceinter.fr.
Les premiers chiots éprouvettes de l'histoire sont à la une de la science aujourd'hui.
Où sont-ils pour l'amour du ciel?
Mais Cruella, qui ça?
Les bébés chiens. Je suis pas venue ici pour rien, où sont les chiots?
Il y en a bien encore pour 3 semaines. Ces choses-là ne se font pas sur commande.
Dis-moi, quand les chiots seront nés, tu me préviendras, n'est-ce pas?
Oui, Cruella.
Oh, n'oublie pas, c'est une promesse. Alors je te dis à bientôt, dans 3 semaines. Au revoir, chérie.
Alors, ce ne sont pas des dalmatiens, mais il aura fallu là par contre attendre 40 ans et non 3 semaines pour que les vétérinaires maîtrisent cette technique de la fécondation in vitro canine. Mais ils sont là, en pleine forme, 7 chiots nés en juillet dernier et qui ont été présentés cette semaine par la revue PLOS ONE, par les vétérinaires de l'Université du Michigan. Pour en parler, nous sommes avec vous par téléphone, Sylvie Chastan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de reproduction à l'école vétérinaire de Toulouse, spécialiste justement du chien. La fécondation in vitro, on la maîtrise parfaitement chez l'homme maintenant, on le sait bien, depuis 1982, et chez beaucoup d'espèces animales d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'était aussi compliqué chez le chien?
Parce qu'en fait, le chien, d'un point de vue reproduction, correspond à une espèce, une physiologie complètement différente des autres espèces. Et en particulier avec un ovocyte, une maturation de l'ovocyte qui est très différente. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire dans le follicule, comme chez l'homme par exemple, chez le chien, il faut attendre que l'ovocyte soit ovulé, qu'il tombe dans l'oviduc, qu'il y reste à peu près 3 jours. Et seulement à ce moment-là, il acquiert la possibilité d'être fécondé. Et toute cette phase-là était très difficile à maîtriser et ne l'est d'ailleurs toujours pas, et elle ne l'est pas non plus dans le résultat qui est montré ici. C'est-à-dire que quand vous faites le parallèle entre la fécondation chez l'homme et l'exploit qui a été réussi ici, c'est quand même pas tout à fait pareil, parce qu'il n'y a pas de maturation in vitro, il y a entre guillemets que la fécondation in vitro qui ait été réussie.
Comment ont-ils fait donc pour réussir tout de même une FIV malgré tous ces blocages, Sylvie Chastan?
Mais en fait, ils ont une stratégie extrêmement intelligente qui consiste à aller récupérer directement dans les oviductes des ovocytes qui sont aptes à être fécondés. C'est-à-dire qu'ils n'ont, au lieu d'essayer de reconstituer ce phénomène en laboratoire, parce qu'on n'y arrive pas pour l'instant, ils ont laissé les chaînes ovuler, ils ont attendu que les ovocytes mûrissent à l'intérieur de l'oviducte, puis ils ont opéré les donneuses, laver les oviductes, récupérer des ovocytes mûrs et ensuite seulement mis les spermatozoïdes en contact in vitro.
Quelles sont les conséquences pour la chienne donneuse? Est-ce que ça change quelque chose?
En l'occurrence, oui. Alors, c'est pas grave, mais simplement toutes les chiennes donneuses, dans ce cas-là, ont été ovariectomisées, c'est-à-dire stérilisées. C'est-à-dire qu'il a fallu enlever les ovaires et l'appareil génital, mais comme c'est fait de façon parfaitement conventionnelle chez les 3/4 des chiennes qui vivent en France.
Alors, Sylvie Chastan, dans la procédure, les embryons ont été congelés avant d'être transférés, indépendamment donc de la FIV elle-même. La maîtrise de cette technique de congélation est également nouvelle. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante?
Ben, à mon avis, c'est ça d'ailleurs qui est la partie la plus intéressante de cette publication, c'est le fait d'avoir été capable de congeler chez le chien et ensuite de retransférer et d'obtenir des naissances à partir d'embryons congelés. Alors c'est difficile chez le chien en particulier parce que l'embryon est très riche en lipides et toute cette graisse accumulée... On le sait aussi chez le cochon, où c'est exactement le même type de problème. Le fait d'avoir des embryons très riches en lipides rend leur décongélation extrêmement délicate. Et chez le chien, il y a extrêmement peu de gens qui avaient déjà réussi à les congeler et à les décongeler en termes de développement embryonnaire simplement, mais des gens qui avaient réussi à obtenir des naissances sur des embryons congelés, c'est absolument rarissime. Donc l'exploit, à mon avis, est là.
C'est... une technique qu'on voit très compliquée, on imagine coûteuse. Est-ce qu'on peut quand même imaginer des applications particulières?
Alors, les gens qui l'ont fait, enfin l'équipe qui a tenté ça, en fait, n'a essentiellement que des visées scientifiques. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de pouvoir manipuler l'embryon par la suite pour valoriser le chien en tant que modèle de maladie génétique de l'espèce humaine. Parce que pour ça, le chien a à peu près 300, 400 maladies à fond génétique communes avec l'espèce humaine. Et en plus, le chien a l'énorme intérêt de vivre dans le même environnement que nous. Donc, c'est un modèle expérimental très intéressant. Après ça, l'autre application qui peut être envisagée, c'est de pouvoir sauvegarder des espèces de canidés en voie de disparition en congelant des embryons.
Donc ça, c'est pour la conservation. Hein. C'est un autre pan possible, oui. En tout cas, l'utilisation de cette technique. Est-ce qu'on ne va pas également, quand même, Sylvie Chastan, vers de la manipulation pour faire de nouvelles lignées de chiens, pour expérimenter génétiquement d'autres choses?
Honnêtement, il y a peu de chances, ne serait-ce qu'à cause de l'argent, enfin du tout le financement qui est nécessaire pour mener à bien ces expériences. Ça peut pas être. Il n'y a aucun intérêt à le faire pour l'espèce canine par elle-même. C'est vraiment à viser recherche pour l'instant. Il ne faut pas du tout imaginer que cette technique-là est pour l'instant proposable dans la population canine ou pour faire des chiens qui auraient telle ou telle caractéristique. C'est vraiment pour l'instant encore à l'échelle de l'expertise et du laboratoire.
Vous avez parlé de conservation. Est-ce que le fait que la donneuse soit rendue stérile n'est pas un problème pour la conservation d'espèces canines?
D'espèces de canidés, oui, bien sûr, mais cela dit, la technique chirurgicale pourra sans doute être raffinée un petit peu. C'est-à-dire qu'il est parfaitement possible chez les chiens de laisser l'oviducte en place et de laver l'oviducte pour récupérer les ovocytes. Là, je pense que la raison pour laquelle ils n'ont pas pratiqué comme ça, c'est que ils voulaient réellement récupérer un maximum d'ovocytes, parce que chez la chienne, on est limité en particulier par les traitements hormonaux qui sont inefficaces. On n'est pas capable d'augmenter le nombre d'ovocytes produits, alors que c'est parfaitement faisable chez la vache ou chez la chienne. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. Mais ça pourra être raffiné ensuite pour ne pas avoir à stériliser la donneuse.
Merci beaucoup, Sylvie Chastan, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes professeur de reproduction à l'école vétérinaire de Toulouse, à l'occasion donc de cette première fécondation in vitro chez le chien. Bonne journée à vous. Merci.
Avec plaisir. Bonne journée.